et de pouvoir surmonter les épreuves, les échecs qui se trouvent sur notre chemin, et pouvoir même les utiliser pour rebondir et se propulser plus loin. Vous savez, je crois que Dieu veut que nous prospérions à tous égards, je crois que Dieu veut nous guérir, je crois que Dieu veut le meilleur pour nous parce qu'il est un Père digne de ce nom. Et un Père digne de ce nom ne veut rien d'autre pour ses enfants que le meilleur, n'est-ce pas? Combien nous avons de papas ici? Vous avez envie que vos enfants soient malades? Vous avez envie que vos enfants manquent de tout? Non, eh bien Dieu est un Père bien meilleur que chacun de nous. Donc il veut de bonnes choses pour ses enfants. Et nous prêchons cela. Nous le croyons, mais ça n'empêche pas que nous devons aussi réaliser que sur le chemin de notre destinée, il y a beaucoup d'obstacles et nous ne parvenons pas à réussir dans toutes ces choses de suite. Il faut souvent s'y reprendre plusieurs fois et pour pouvoir s'y reprendre, eh bien, il va falloir surmonter les obstacles, il va falloir gérer nos déceptions, il va falloir résister à des ennemis. Et ce matin, je voudrais vous parler de cet ennemi particulier qui est le découragement. Dans ces temps, le diable, il a décidé de tout mettre en œuvre pour abattre les champions de Dieu. Vous savez que vous êtes appelé à être un champion de Dieu. Moi, j'ai entendu cette voix une fois du Saint-Esprit qui m'a dit « Veux-tu être mon champion ?» Et cette parole qu'il m'a adressée, eh bien, il ne l'adresse pas qu'à moi ou à une catégorie d'illuminés. Il l'adresse à tous ceux qui veulent se lever dans ces temps. Nous sommes appelés à être des champions, pas des lampions. Les lampions, c'est joli, mais c'est pas très efficace. Des champions de Dieu. Le diable, il a beaucoup de champions. Et je crois que parfois, Dieu est saisi d'une sainte jalousie à la vue de tous ces champions du diable, ces commentateurs de télévision, ces chanteurs, ces écrivains qui influencent notre société. Et Dieu cherche des champions pour contrebalancer la puissance du diable. Alors dans ces temps, le diable, il a décidé de tout mettre en œuvre pour abattre les champions de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont supposés marquer et démontrer la différence entre un christianisme rom-plom-plom et l'expression puissante du royaume de Dieu. Et il a l'intention d'empêcher le plus grand nombre, en fait, de démontrer quoi que ce soit en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et non content de cela, il veut même que nous devenions un contre-témoignage de ce que nous prêchons. Il veut que nous soyons un témoignage de faiblesse et de découragement face à ses attaques. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pour s'emparer du royaume de Dieu, eh bien, permettez-moi l'expression, il faut être un peu allumé. Moi, j'essaie de m'entourer que de gens un peu, c'est pas la bonne expression, beaucoup allumés. J'ai épousé une femme bien allumée, parce qu'il est important de marcher ensemble dans ce même feu. Amen. Les attaques principales que le diable lance contre ceux qui veulent se lever pour faire avancer le royaume de Dieu sont l'orgueil, l'immoralité sexuelle, beaucoup d'autres choses, mais aussi le découragement. Nous savons tous que l'orgueil, l'immoralité sexuelle sont des pièges de l'adversaire. Pour le découragement, c'est moins évident parce que les attaques du découragement consistent justement à nous amener à accepter toutes les bonnes raisons, entre guillemets, que nous avons de nous décourager. Est-ce que vous me suivez? Le découragement veut nous empêcher d'arriver quelque part parce qu'on se décourage avant d'y arriver. Le découragement, il est capable de vous faire tout envoyer promener du jour au lendemain. Et ça peut être à la veille de la bénédiction attendue d'ailleurs. Le découragement peut vous plonger dans la dépression au point de ne plus vouloir vivre. Le découragement, il peut briser votre cœur. Le découragement, il n'y a pas de doute, c'est un ennemi et c'est un ennemi auquel Jésus a dû résister aussi. D'après Ésaïe 42:4, il nous est dit « Il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. » Pour Jésus aussi, ce n'était pas prévu d'être facile. Et la Bible dit qu'il a été tenté, donc éprouvé en toutes choses comme nous. Donc Jésus a été tenté, éprouvé par le découragement. Le découragement, d'après ce verset, crée le relâchement. Il était prophétisé de Jésus qu'il ne se découragerait point, mais aussi qu'il ne se relâcherait point. Le découragement, c'est le plus grand ennemi que j'ai trouvé sur ma route ces dernières années. Et merci Seigneur, je l'ai surmonté. Aujourd'hui, j'ai une pêche nouvelle, renouvelée. Amen. Et on voudrait que vous repartiez avec la même pêche de ce séminaire, beaucoup d'entre vous. Je peux avoir un petit amen ? Et maintenant, je peux en avoir un gros ? Voilà, alors essayez d'utiliser le gros. Le découragement est causé par un autre mot qui commence par D aussi. Déception. On se retrouve découragé en général parce qu'on est déçu. Déçu par les autres, déçu par soi, déçu par la vie. On peut même faussement penser qu'on est déçu par Dieu. Voyons les principales raisons, causes de découragement. Et puis, on va parler aussi de l'antidote pour chacune d'elles, afin à la fois de discerner comment agit notre ennemi et briser son action dans nos vies. Avant tout, il nous faut réaliser, comme pour le couple hier, que le découragement, c'est un ennemi spirituel. Si on le considère comme un ennemi spirituel précis, on ne va pas résister aux hommes qui sont utilisés par lui, aux éléments qui sont utilisés par lui pour causer ces découragements. On va résister à des puissances de ténèbres, parce que nous n'avons pas affaire à la chair au sang, mais à des puissances de ténèbres. Il y a humainement de quoi se décourager dans l'église, dans le ministère, et selon les gens, dans leur propre couple. Et l'ennemi utilise ses raisons, mais celles-ci ne sont pas derrière l'ennemi, c'est l'ennemi qui est derrière ces choses. Ce n'est pas aux raisons, aux causes qu'il faut résister, c'est à l'ennemi. Jacques 4, 7 dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Si on considère le découragement comme un ennemi spirituel, on va se poser aussi les questions suivantes. Que recherche le diable à travers ce problème? Peut-être qu'il a mis sur ma route ce conflit avec mon conjoint, cette mésentente, cette médisance qui me pousse à manifester. Le diable a toujours une idée derrière la tête. Vous savez, quand il fait exploser un couple qui a décidé de servir Dieu, eh bien, il n'est pas un couple prêt à faire exploser de toute façon pour son plaisir. Hein. Donc, il vise beaucoup plus loin. Il vise toutes les conséquences que ça va avoir. Ça va se répercuter dans l'église, ça va se répercuter envers les enfants, ça va se répercuter dans la société, ça va se répercuter envers les inconvertis qui vont blasphémer le nom de Dieu. Donc, il voit beaucoup plus loin et nous aussi, on doit voir beaucoup plus loin. Au lieu de voir juste le problème auquel on est confronté à l'instant. Et au lieu de réagir au problème, on va résister à l'ennemi de façon à voir comment court-circuiter son plan. Alors, des raisons de se décourager, il y en a beaucoup. On est souvent découragé avec les autres. On est déçu par les autres quand ils ne sont pas à la hauteur de ce que l'on attend d'eux. On compte sur eux et ils faillissent, ils ne nous aident pas quand on en a besoin, ne sont pas là quand il le faut. Et on est alors tenté de ne plus vouloir travailler avec les autres et même on est tenté à un moment donné d'en vouloir à tout le monde. Et c'est un faux raisonnement qui nous amène, au bout d'un moment d'ailleurs, à juger tout le monde. Et je dirais même à faire payer à certains qui ne nous ont rien fait ce que d'autres nous ont fait. On voit ainsi certaines femmes dire, après avoir eu une mauvaise expérience avec un homme, « De toute façon, tous les hommes sont comme ça. » Ou certains hommes dire, « Toutes les femmes sont comme ça. » Un serviteur de Dieu est tombé dans l'adultère, tous les serviteurs de Dieu commettent l'adultère. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Ce sont des faux raisonnements parce que le découragement n'entraîne pas la lucidité d'esprit. Ni la justice de Dieu. Le découragement nous plonge dans le jugement. Et l'antidote à cette première forme de découragement, être déçu par les autres, comment éviter de ne pas toujours être déçu avec l'un et avec l'autre? Eh bien, en ne faisant pas les choses pour les hommes, mais en les faisant pour Christ. Amen. Si on fait les choses pour Christ, on ne va rien attendre. Et Jésus l'a précisé, de rien entendre en retour de la part des hommes, même si nous croyons en un retour. Et donc, tu n'es jamais déçu. Quand tu n'attends rien des gens et que tu ne reçois rien, tu n'es pas déçu parce que tu n'attendais rien. Mais quand tu attends trop, beaucoup de gens dans les églises, ils attendent toujours qu'on leur dise bonjour au moment où ils attendaient qu'on fasse pour eux ce qu'ils veulent. Ils sont toujours déçus parce qu'ils attendent trop. La notion biblique, c'est qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc je dois être quelqu'un qui est, permettez-moi l'expression, obsédé par l'idée de donner plus que par l'idée de recevoir. Est-ce que vous me suivez? Parce que je serai toujours déçu si j'attends trop. Si j'attends de l'Église qu'elle soit parfaite, je serai toujours déçu parce qu'à partir du moment où j'y suis, elle sera imparfaite de toute façon. Colossiens 3, 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Luc 6, 35 « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. » Lorsque l'on n'attend rien, on n'est pas déçu. Et d'ailleurs, on se réjouit toujours par ce qu'on nous donne. Parce que la moindre chose qu'on va nous donner, ça va nous réjouir parce qu'on n'attendait rien. Mais quand on attend trop, on n'est jamais satisfait. Voilà comment on peut résister au découragement qui consiste à être déçu par les autres. En n'attendant rien ou pas grand-chose des autres. Mais en attendant tout de Dieu. Alléluia. On peut être déçu avec soi-même. Régulièrement, chacun de nous doit faire cette pénible constatation qu'il n'a pas été à la hauteur, qu'il n'a pas entendu correctement le Saint-Esprit le diriger, qu'il a failli au moment où il n'aurait pas fallu qu'il faillisse, qu'il a trop parlé. Parfois, on a passé une journée et puis on fait le bilan le soir, on dit ben, « j'aurais mieux fait de ne pas dire ce que j'ai dit, j'aurais mieux fait de ne pas faire certaines choses que j'ai faites ». On est déçu avec soi. Et si on ne règle pas ça avant de se coucher, pour pouvoir se coucher dans la paix, ça va nous travailler pendant toute la nuit. Vous avez remarqué que vous êtes imparfait? Je suis désolé, vous n'aurez jamais une femme parfaite. Vous n'aurez jamais un mari parfait. Vous n'aurez jamais un pasteur parfait. La perfection n'est pas de ce monde tant que nous sommes dans ces corps de chair. C'est pourquoi un jour, ce corps sera rendu semblable au corps de sa gloire. Amen. Et ça ne fonctionnait pas de la même façon. Jésus, quand il est apparu à ses disciples, dans son corps nouveau, il passait à travers les murs. Essayez de passer à travers le mur, là, vous allez voir ce que ça donne. Il ne faut pas essayer de vivre ici-bas à un niveau où nous ne pouvons pas vivre. Notre justice, elle se trouve en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que nous devons mettre de côté le principe de la sanctification, au contraire. On doit travailler tous les jours à faire tout ce qu'on peut pour plaire à Dieu. Mais une fois qu'on a fait tout ce qu'on peut, on se retrouvera encore imparfait, en ayant failli. Donc notre message sur la grâce n'est pas « il ne faut pas travailler à sa sanctification ». Au contraire, on est supposé évoluer, mais évoluer dans le contexte de la grâce et de l'amour de Dieu, et non pas dans le contexte de la culpabilité et de la pression religieuse. Cette déception avec soi-même entraîne qu'on est tenté de s'installer dans l'échec que l'on vient d'avoir. On est tenté de rester allongé si on vient de tomber, de rester énervé si on s'est emporté. Parce qu'un piège du diable est de souffler à nos oreilles au point de faillir tout tuané, autant aller jusqu'au bout. Le diable veut engendrer, lorsque nous avons un échec, une réaction en chaîne. On est tombé dans un premier piège, il veut qu'on oublie que c'est lui qui nous y a fait tomber, et que l'on considère la chute un sujet de découragement, et que de décourager, on devienne dépressif. Et ça a été le problème de David, il a commis un premier péché, et au lieu de s'en repentir, il a essayé de le couvrir par un autre péché. Et c'est ce que le diable essaie de faire avec nous, de produire une réaction en chaîne. Tu t'es cassé la figure, et bien plus que tu y es, reste dépressif pendant 15 jours. Tu as commis un péché, et bien plus que tu y es, commets-en 10. Donc quand on chute, il faut vite se relever. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Le chrétien doit être comme ces petits personnages, vous savez, avec des ressorts qu'on met dans des boîtes. Là. Quand on ouvre le couvercle de la boîte, oup, le personnage, il apparaît parce qu'il est propulsé par le ressort. Le chrétien, c'est quelqu'un, chaque fois qu'il a un problème ou qu'il chute, eh bien, hop, il rebondit. Chaque fois que le diable il rouvre la boîte, Parce que des fois, il se dit, avec tout ce que je lui ai mis, il ne risque plus de rebondir maintenant. Mais au bout d'un moment, il est très curieux, il veut rouvrir la boîte. Il veut avoir le plaisir de vous voir en sang, de vous voir en morceaux. Alors, il rouvre la boîte et là, hop, vous ressurgissez. N'est-ce pas? Vous ne voulez pas rebondir comme ça? Alors, ne perdez pas vos ressorts, hein. D'accord? Entretenez vos ressorts. L'antidote de cette deuxième forme de découragement, être déçu avec soi-même, eh bien, lorsqu'on n'a pas été à la hauteur, on a en général l'impression qu'on est le plus minable, le plus imparfait, le plus ceci, le plus cela. Et c'est ainsi que les gens se renferment sur eux et s'isolent. Il est donc important de prendre conscience que le seul qui n'a jamais failli, c'est Jésus. Et que sa grâce est disponible chaque jour pour chacun de nous et que sa justice, il nous la donne. Tout ce que tu n'as pas réussi à être, Jésus l'a été. Et il t'en fait cadeau. C'est pourquoi tu n'as pas à essayer de te sanctifier tous les jours à travers un processus difficile. On regarde certains chrétiens parfois, qu'est-ce que tu fais? Je me sanctifie. Non, relax. On se sanctifie dans l'amour de Dieu. Alléluia. On n'a pas à avoir l'impression qu'on est en train de marcher sur des œufs. On est dans la paix, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Le diable veut que tu essayes de servir Dieu dans la confusion, dans la pression. Vous savez, même dans le monde, quand quelqu'un souvent essaie de vous vendre quelque chose, il utilise le fait que vous soyez sous pression parce qu'il sait que sous pression, vous n'allez pas trop réfléchir au choix que vous faites. Alors vous êtes allé voir un vendeur pour acheter une voiture et le gars il vous dit « Eh oui, ça tombe bien, j'ai juste la couleur qu'il vous faut, la voiture qu'il vous faut, mais elle va partir demain, donc il faut que vous preniez la décision aujourd'hui, allez vite trouver votre femme, vous revenez cet après-midi et vous, vous êtes là embobiné, vous allez trouver votre femme et vous dites « Je sais chérie qu'on n'a pas l'argent, mais il faut qu'on se débrouille pour faire un prêt parce que tu te rends compte, il y a juste la couleur dont on a besoin et demain elle n'y sera plus !» Tu achètes la voiture, mais une fois que tu l'as, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on ne doit pas prendre des décisions sous pression, n'est-ce pas? Ou lorsque quelqu'un essaye de nous manipuler. Nous avons une vidéo sur le sujet, la manipulation est un principe de sorcellerie. Et malheureusement, elle est beaucoup utilisée dans l'Église, sous le couvert de l'Éternel m'a dit, le Seigneur m'a montré. Mais la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Alléluia. Dans nos décisions, on doit les prendre dans la liberté. Même un mari, il n'a pas à essayer d'imposer de force quelque chose à sa femme ou une femme à son mari. Ce sont des principes de manipulation. Et la définition de la sorcellerie, vous savez ce que c'est? C'est pas se mettre là et planter des aiguilles dans une poupée. Ça rentre dans ce cadre-là, mais ça commence bien plus tôt. Ça consiste à essayer par l'intimidation, par la peur ou autre chose, ou l'apitoiement, de faire à quelqu'un une chose qu'il ne ferait pas par sa propre autorité, s'il pouvait choisir librement. Ça s'appelle de la manipulation. Même si c'est fait au nom de Jésus-Christ, on peut mettre toutes les étiquettes chrétiennes là-dessus, ça reste démoniaque. Et nous devons virer ces choses du milieu de nous parce qu'elles empêchent le Saint-Esprit de se manifester. Ce Saint-Esprit qui se manifeste dans la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Et plus de liberté, ça ne veut pas dire faire plus de bêtises et faire plus de péchés. Au contraire, c'est se sentir de plus en plus à l'aise pour se sanctifier de plus en plus, pour plaire de plus en plus à Dieu. Alléluia. Quand on se sent aimé, on n'a pas envie de trahir celui qu'on aime. Mais plus on se sent sous pression, d'après l'apôtre Paul, ces pressions produisent encore plus de péchés. C'est pourquoi plus une église, plus une personne est religieuse, vous pouvez dire, plus il se cache de péchés derrière. Il est donc bien de prendre conscience que le seul qui n'a jamais failli, c'est Jésus. Et que sa grâce est disponible pour chacun de nous et chaque jour. Pierre a failli, il a renié Jésus. Waouh, il a bien failli d'ailleurs. Mais la grâce de Dieu l'a relevé. Moi, quand je vois ce que Jésus il a vécu avec ses disciples, ça me décomplexe. Jésus il débarque dans le jardin de Gethsémané avec son équipe d'intercession. Puis au bout d'un moment, ils sont tous en train de ronfler en langue. Jésus il commence sa première église de maison et hop, il mets juste quelques points sur les i, et ça explose, ils se retrouvent avec les 12. Et toi, tu t'inquiètes parce que les gens, ils te quittent, et qui, oula ! Les deux fils de Zébédée, ils sont venus avec leur maman. S'imaginer le problème théologique qui occupait leur cœur. Ils voulaient être chacun à la droite, l'autre à la gauche. Dis donc, c'était des fils à maman. Thomas, ça fait 3 ans et demi qu'il leur dit qu'il doit ressusciter. Quand ça arrive, ils ne croient pas. Lorsque les femmes viennent, on dit que les femmes, souvent, c'est le sexe faible, bien là, elles ont été bien plus fortes. Elles ont cru. Les femmes ont cru. La main, il vient des femmes, là. Et les hommes ont douté. Ça fait 3 ans et demi qu'il leur dit qu'il va ressusciter, qu'il va mourir et ressusciter. Et Thomas, lui, il en rajoute. Il veut mettre ses doigts dans les trous des mains de Jésus. Vous imaginez, pour supporter tous ces gens, la patience qu'il fallait avoir? Moi, j'imagine, lorsque Jésus, justement, il a passé à travers les murs et qu'il est apparu au milieu de ses disciples, mais ils ont dû se sentir mal. Moi, je me mets à la place de Thomas, il a dû dire, « Bon, moi, je vais aux toilettes. » Je crois qu'il a calmé tout le monde, Jésus, quand il leur a dit, il leur a pas dit, « On va faire les comptes maintenant. » Peut-être qu'il aurait pu dire à Thomas, « Tu voulais voir ma main, Thomas? Tu vas la voir. » Et il leur dit, la paix soit avec vous. Oh, vous imaginez s'il a, ça a dû se décompresser dans l'ambiance, dans la pièce, là? Alors vous voulez être décomplexé, lisez les évangiles. Vous lisez les gens que Jésus a choisis et vous vous dites, eh bien, il y a de l'espoir pour moi. Pierre, il a failli, il a renié Jésus, mais la grâce de Dieu l'a relevé, car il a su saisir cette grâce. Judas, on en a déjà parlé, il a plus que failli, c'est sûr, comme Pierre. Mais le sacrifice de Jésus pouvait pourvoir à son grand péché et le remettre sur pied s'il avait, comme Pierre, choisi le chemin de la repentance plutôt que choisi le chemin de la dépression. Et moi, je vais vous dire une chose, beaucoup de gens choisissent le chemin de la dépression pour éviter de se repentir. Quand Caïn a été dans la dépression, le Seigneur lui a donné cette réponse, « Le péché se couvre à ta porte, toi domine sur lui. » Amen. Peut-être que le péché se couvre à ta porte en ce moment, eh bien toi domine sur lui. Judas a fait le choix contraire à Pierre. Il a choisi la dépression plutôt que la restauration. Et c'est le choix que l'ennemi veut nous amener à faire face à nos manquements. Face aux déceptions que nous avons avec nous-mêmes, il veut nous faire perdre de vue que notre justice est en Jésus. L'Esprit de Dieu veut nous amener à nous relever et nous permettre de repartir de plus belle, lavés par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous avez vu ces bannières, il y a certaines bannières, elles symbolisent le sang précieux de Jésus-Christ. Le visuel est important. Un grand serviteur de Dieu s'est retrouvé un jour découragé au point de vouloir mourir. C'est Élie. Il a été menacé par Jézabel. Et il fuit. Cet homme qui vient d'avoir une fantastique victoire, dont nous devons faire attention lorsque nous venons d'avoir une grande victoire. Si nous ne veillons pas, nous risquons d'avoir une grande défaite le lendemain. Si nous nous appuyons sur nos lauriers et nous perdons de vue la grâce de Dieu qui nous a permis d'avoir cette victoire. Par 1 Roi 19.4, il est dit pour lui, il s'en alla dans le désert, une journée de chemin, il vint s'asseoir sous un genêt. Donc voilà un homme qui n'a pas fui devant, je crois, 450 prophètes de Baal, même qui n'a pas eu froid aux yeux, il les a égorgés les uns après les autres. Et il fuit devant une femme. Il n'a peut-être pas pris le temps de se restaurer mentalement et physiquement. Après ce grand combat, épuisé, déçu avec lui-même, la Bible nous dit qu'il demande la mort en disant « C'en est assez, ô Éternel, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se voit comme ayant failli, il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » En d'autres termes, j'ai tout foiré, Seigneur, ça ne vaut même pas la peine que je vive. Donc le découragement peut nous ôter jusqu'au désir de la vie. Pourtant, Élie avait eu peu de temps avant une grande victoire, c'est-à-dire une occasion d'être encouragé et non découragé. Et lorsque vous sortez d'une réunion, vous sortez de ce séminaire, vous avez parfois l'impression que vous allez être gardé pendant 6 mois. Mais dès le lundi, vous commencez à avoir des fuites. Pendant que je parle, pendant que nous chantons, vous avez l'impression qu'un ballon, et c'est juste, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, il y a un ballon qui est gonflé. Lorsque vous partez, vous avez l'impression que vous ne touchez pas terre, n'est-ce pas? Et puis dès le lundi, les fuites commencent. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de nous entretenir continuellement de l'esprit. C'est-à-dire, en d'autres termes, d'être toujours rempli. Continuez à vous remplir quand vous sortez de ce séminaire. C'est pourquoi on a mis à disposition des CD d'enseignement, des livres, des DVD. On n'est pas là pour faire les marchands du temple, mais on croit qu'il faut qu'il y ait une suite après. Et que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jézabel se trouvait derrière le découragement. Cette sorcière se trouvait derrière le découragement qui a oppressé Élie. La cause était spirituelle. On est déçu aussi souvent par les critiques qui sont faites à notre encontre. Parfois, on fait de son mieux tout ce que les gens, notre conjoint même peut-être. Moi, je rends grâce à Dieu, ce n'est pas le cas. J'ai toujours une femme qui m'encourage. Peut-être nos parents arrivent à faire remarquer ce qui ne va pas. Et à la longue, c'est décourageant. Vous avez fait tous vos efforts et puis on vous fait remarquer ce qui ne va pas. Vous avez fait le ménage de fond en comble, vous avez oublié le placard, la personne, elle arrive, elle ne regarde que dans le placard. Vous savez, la critique constructive aide, mais il y a une critique destructrice. Et vous me direz quelle est la différence. La critique constructive est accompagnée de l'encouragement, qui est le contraire, bien sûr, du découragement. On apprend des choses ce matin. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous donne une critique constructive doit le faire en ne faisant pas seulement remarquer ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va. Et je dirais en priorité d'abord ce qui va. Vous avez remarqué, lorsque Jésus parle aux 7 églises de l'Apocalypse, il n'arrive pas avec ses gros sabots, mais il commence à parler en disant « Mais il y a ça qui va, il y a ça qui est bien, je suis satisfait avec ça, avec toi. » Et après, il amène la suite, qui est beaucoup plus désagréable. Vous êtes d'accord avec nous? Mais c'est difficile de recevoir une critique constructive de la part de quelqu'un qui nous donne l'impression que tout ce qu'il voit chez nous, c'est les défauts. C'est difficile, si on est un ministère itinérant, de débarquer dans une église et de prêcher de manière à faire penser au pasteur que tout ce qu'il fait, ça vaut rien. Après, on dit « Oh, l'église n'a pas reçu mon message ». Non, il faut avoir un peu de respect pour ce que les gens ils ont fait aussi. Et parfois, en tant que ministère itinérant, on peut casser plus de peau qu'autre chose. On va débarquer dans une église, on fait tomber les gens qui tombent d'habitude, on fait crier ceux qui crient d'habitude, on a l'impression qu'on a fait un merveilleux week-end, on s'en va et on laisse le pasteur se débrouiller avec tous les pots cassés et toutes les stupidités qu'on a dit du haut de l'estrade. L'amour, nous dit 1 Corinthiens 13, cherche le meilleur chez chacun. Vous voulez aider quelqu'un à changer et commencer à lui faire voir que vous savez voir ses qualités avant de lui parler de ses défauts. Et puis quand vous lui aurez parlé de ses défauts, eh bien donnez-lui l'occasion de vous parler des vôtres aussi. Le découragement vient souvent d'un déséquilibre dans la critique qui vous donne l'impression que tout ce que vous faites, c'est nul. Même si ce n'est pas l'intention de la personne au départ, la forme qu'elle utilise va faire toute la différence. Le fait de dire la vérité ne peut seul nous justifier quand on critique quelqu'un. On peut dire des choses vraies dans un état d'esprit faux. À la rigueur, il vaut mieux dire des choses fausses dans un bon état d'esprit que des choses vraies dans un mauvais état d'esprit. Parce que Dieu, de toute façon, il va nous juger par rapport à notre cœur. Est-ce que vous me suivez ? Maintenant, le mieux, c'est de dire des choses vraies dans un esprit vrai. Visez ça. Hein. Alors, attention à la critique qui communique un sentiment de dépression. Lorsque quelqu'un vous parle, ou soi-disant prophétise, et c'est suivi d'un sentiment de dépression, ça sent le démon. Parce que la prophétie, même si elle met le point sur des choses désagréables, elle est là pour relever. Dans Dieu, il a toujours une parole pour nous relever, pour nous encourager. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas prophétiser dessus par le premier qui se prend pour un prophète. C'est marrant, quand je viens dans cette région, la dernière fois, ça m'a fait le même effet. J'ai l'impression que j'ai le mot faux prophète qui me revient. Il y a beaucoup de faux prophètes qui ont fait beaucoup de mal dans cette région. Et la meilleure façon de se garder des faux prophètes, c'est de savoir que ceux qui doivent analyser les paroles, ce n'est pas les autres pour nous, c'est nous, pour nous-mêmes. Car la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Moi, je crois un prophète et je crois que nous n'avons jamais eu autant besoin des prophètes et des apôtres, amen, mais qui ne se lèvent pas n'importe comment, qui ne se lèvent pas pour nous pourrir la vie. Amen. Qui ne se lèvent pas pour nous plonger dans la dépression. Si les gens ont besoin de 15 jours pour se remettre chaque fois que tu prophétises, peut-être qu'il faudrait revoir ton don. L'antidote à cette quatrième forme de découragement, déçu par la critique à notre encontre, eh bien, acceptons de recevoir des gens, des critiques, des gens qui savent aussi apporter ces critiques de la bonne manière. C'est à nous de juger qui va nous apporter quelque chose par la critique. Vous savez, nous avons le droit de décider qui va nous aider à grandir spirituellement. C'est à nous de choisir les personnes qui vont nous aider à grandir spirituellement. Ce n'est pas à elles de débarquer en disant « Le Seigneur m'a dit, je dois participer à ta sanctification. » Écoute, participe à la tienne. Beaucoup de gens pensent avoir le don de discernement, mais en réalité, c'est le don de suspicion. S'ils exerçaient 5 minutes sur eux, ils se suicideraient. Alors, refusons les critiques de ceux qui n'ont ni la sagesse ni la forme, c'est-à-dire donc qui ne sont pas envoyés par Dieu, parce que celui qui est envoyé par Dieu, il vient avec la sagesse de Dieu. Ni l'amour pour le faire. Parce que même lorsque Dieu nous reprend, c'est par amour. S'ils n'ont pas ces caractéristiques de l'Esprit de Dieu, nous n'avons pas à recevoir ce qu'ils ont à nous dire de si important pour prouver leur grand ministère. Et nous devons leur dire, ça les fera réfléchir, et ça leur servira de critique constructive pour eux-mêmes. Mais dites-leur avec amour, et avec un peu d'humour. Alléluia. Alors là, vous pourriez faire un petit alléluia, oui. Voilà. Et vous pouvez essayer le gros aussi. Pas mal le gros, hein. Gardez le gros. Alors, on est déçu aussi à cause des choses qui ne marchent pas. Quand les choses matérielles cassent ou sont en panne les unes après les autres, c'est vite fait de se sentir dépassé, découragé. On doit rechercher à ce que les choses marchent de plus en plus dans notre vie, c'est certain. Néanmoins, afin d'être le plus, je dirais, imperméable possible au découragement causé par la déception de ne pas voir certaines choses se mettre en place dans nos vies, eh bien, il ne faut pas donner trop d'importance aux choses. La Bible dit, par exemple, ne fais pas attention à toutes les paroles qu'on dira sur toi. Souviens-toi que toi aussi, ça t'est arrivé de maudire les autres. C'est-à-dire, prends du recul. Ne bondis pas de suite, on a dit ça sur moi, mais il y aura toujours des gens qui diront quelque chose sur toi. Parfois, ça sera vrai d'ailleurs, peut-être. Amen. Dernièrement, ma Renault Espace était en panne. Je l'ai donc amené à la réparation. Et peu après, le problème est revenu. Je l'ai ramené chez le garagiste. J'étais tenté de m'énerver, d'être découragé, de voir que les choses étaient si compliquées alors que je n'avais pas de temps à perdre. Et quelque chose au fond de moi m'a dit, mais ne le prends pas à cœur, c'est qu'une voiture. Alors j'ai téléphoné à ma femme pour qu'elle vienne me chercher au garage et je suis tombé sur son répondeur. Et là je me suis dit, si elle écoute mon message, ça ira. Elle me récupérera sur le chemin du retour. Sinon, eh bien, je rentre à pied. Rien n'est vraiment important et ne mérite que ma journée soit gâchée. Et je louerai Dieu en marchant. C'est qu'une voiture. Amen. Mon fils Jonathan, je lui ai prêté la Renault Espace il y a quelque temps. C'était une des premières fois qu'il la prenait. Et j'étais sur la terrasse. Et lorsqu'il est revenu, il est rentré par le portail. Et j'ai entendu... Alors j'ai entendu dans mon cœur aussi... Elle est bruitage ce matin. Et j'étais tenté de m'énerver. Et puis il y a une petite voix qui m'a dit, mais est-ce que la relation avec ton fils, elle n'est pas plus importante que ta voiture? Alors quand il est venu, je lui ai dit, écoute, ça arrive à tout le monde de scratcher une voiture. Ma relation avec toi, elle est plus importante que ma voiture. Et je te reprêterai ma voiture. Alléluia. Il y a des gens qui divorcent à cause d'une voiture. Il y a des gens qui s'entretuent à cause d'une voiture. Si nous donnons trop d'importance aux choses, ces choses vont être utilisées par Satan pour nous décourager et pour nous détruire. Amen.
Ouh.
Gloire à Dieu. Tu peux te tourner vers quelqu'un et dire, c'est qu'une voiture. Et derrière ce mot voiture, il peut y avoir beaucoup d'autres choses, vous comprenez, hein? Ok. C'est rien. C'est que le fauteuil du salon. C'est que la télé. Et si on ne veille pas, enfin, eh bien, on est alors déçu avec Dieu. Et c'est un mensonge du diable, car Dieu ne peut décevoir. Le diable veut nous faire croire que lorsque les choses ne marchent pas, c'est que Dieu nous rejette, Dieu nous ignore, Dieu nous abandonne, Dieu nous méprise. Et c'est vrai que c'est ce qu'on sent parfois, c'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne sommes pas supposés marcher par ce que nous sentons, nous sommes supposés marcher par ce que nous croyons. Parce que souvent nous sommes amenés à croire le contraire de ce que nous sentons. Il y a des moments où tu te lèves, tu sens la présence de Dieu et tu as l'impression que tu vas sauver le monde entier. Et le lendemain tu te lèves et tu ne sens plus rien du tout. Et là, il y a quelqu'un qui vient te dire, tu dois avoir un péché caché. Alors là, il ne faut pas rencontrer ces personnes ce jour-là. Mais non, nous avons des émotions, nous avons un corps qui ne sont pas nés de nouveau. On ne peut pas se fier à nos émotions, on ne peut pas se fier aux sentiments de notre corps. On est obligé de se fier à ce que la parole de Dieu dit. Je ne peux pas comprendre Dieu si ce n'est par sa parole. Je ne peux pas me comprendre en tant que nouvelle créature par ce que je sens. Je ne comprends qui je suis en Christ que parce que la parole de Dieu me dit que je suis. Parce qu'il y a des moments, je me lève, je ne me sens pas être un vaillant héros comme me dit que je suis l'Écriture, je me sens être un vaillant zéro. Et puis des fois, il y a des éléments qui sont insignifiants, qui vont changer le cours de vos émotions et de vos sentiments. Tu as mal digéré le steak de la veille, hop, tu ne sens plus la présence de Dieu. Et là, il y a une voix qui dit, qu'est-ce que tu as fait, Dieu t'a abandonné. Mais non, j'ai mal digéré le steak de la veille. Il y a des gens trop spirituels au milieu de nous qu'il ne faut pas rencontrer ces jours-là. Ouh. Ça sera le thème de notre prochain séminaire. Alléluia. On veut aider les gens à comprendre comment ils fonctionnent, esprit, âme et corps. Lorsqu'ils sont nés de nouveau, ce n'est pas leur corps qui est né de nouveau, ils ont gardé le même. Ce n'est même pas leur âme, c'est-à-dire le centre de leurs émotions. Ça doit être restauré de jour en jour et renouvelé par la parole. C'est ce que nous faisons ce matin. C'est leur esprit qui est né de nouveau. Et notre esprit doit se discipliner, doit être développé. Mais nos émotions sont encore là et seront toujours là pour nous jouer des tours. Et la Bible nous dit que les hommes de ce monde fonctionnent justement selon la chair, c'est-à-dire en fonction de leurs émotions et de ce qu'ils sentent. Un jour, ils veulent la super voiture, un mois après, ils l'ont achetée, ils en sont déjà lassés. Ils veulent telle femme, au bout de 15 jours, ils en veulent une autre. On ne peut pas marcher comme ces gens. Hello! Un jour, tu sens la présence de Dieu, le lendemain, tu veux te suicider. J'avais un ami comme ça dans le ministère. Il faisait des projets pendant toute une journée. Il allait sauver le monde tout seul. Il n'avait plus besoin des autres. Et puis le lendemain, il se levait, il voulait se suicider. Ben, il fallait qu'il trouve l'équilibre. Nous sommes des bipolaires au niveau charnel. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, seule la foi peut nous permettre de trouver un niveau équilibré. Alléluia. Vous avez vu Élie ? Grande victoire. Dépression, je veux mourir, Seigneur. Un homme de la même nature que toi et moi. Alors, n'attendez pas trop des serviteurs de Dieu parce que ce sont des gens de la même nature que vous. Alléluia. Ils sont là pour vous prêcher Jésus. Ils ne sont pas là pour être parfaits. Ils doivent être des modèles. Alléluia. Mais la perfection, vous ne pouvez pas la trouver chez eux. Et parfois, ils ont besoin d'être aidés par les autres aussi. Alors, l'antidote, ne pas se laisser accroire tous ces mensonges du diable. Dieu ne peut décevoir. Et nous devons accepter parfois qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Moi, j'aime beaucoup comprendre les choses. Je scrute la parole de Dieu du soir au matin parce que j'aime comprendre. Mais il y a des moments où je ne comprends pas. Il y a des moments où les gens viennent nous trouver, on a envie de leur donner quand même une réponse alors qu'on ne l'a pas. Et on va leur dire n'importe quoi parce que cette réponse, elle nous est demandée là. Et il n'y a rien de mal à dire, ben je ne sais pas. Ah, toi le grand serviteur de Dieu, tu ne sais pas? Ben non, je ne sais pas. Ah. Ça c'est une parole qu'il faut apprendre à dire en tant que serviteur de Dieu. C'est difficile, vous savez, en tant que pasteur, je ne sais pas. C'est pourquoi l'ange envoya Gédéon, pour qui rien ne marche. Vous savez, Gédéon, il n'y a rien qui marche. Donc il a l'impression qu'il est abandonné de Dieu, c'est normal. Et la première chose que l'ange lui dit, c'est « Salut à toi, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Waouh ! Peut-être qu'il n'y a rien qui marche dans ta vie, et pourtant le Seigneur il te dit « L'Éternel est avec toi. » Ça, c'est positif. Ah oui, mais Seigneur, alors pourquoi il nous arrive tout ça ? Alors Dieu va nous aider dans le calme et la confiance, une fois que la confusion a disparu, à y voir clair, pour mettre en route un plan de bataille pour sortir de nos problèmes. Là, je suis bien d'accord. Mais pas de déduction hâtive. Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime plus, Dieu me rejette. La Bible nous dit que Dieu ne peut être infidèle. Il reste fidèle même lorsque nous sommes infidèles. Nous sommes les seuls qui pouvons nous priver de la gloire et de la grâce de Dieu. Amen. Là, un gros amen, ça aurait été vraiment super. Vraiment. Vous allez voir, à la fin du séminaire, cet après-midi, ça va venir au bon moment. Alléluia! Non, c'était Alléluia cette fois. Oui, on est dans la joie ce matin. On est dans la joie parce que la parole de Dieu est là pour nous donner de la joie. Moi, je me fais du bien, là. Je ne sais pas pour vous, c'est ce que je me dis souvent. S'il n'y a personne qui reçoit, moi, je reçois. Je m'avance après, je m'impose les mains. Alléluia. Donc, nous sommes appelés, face au découragement, à persévérer, rebondir. Ouais. Pas mal. Alors rappelons-nous de ce qui est dit de Jésus dans Ésaïe 42:4. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Hébreux 12:1, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons. Amen. Il y a trop de gens qui marchent, où il y a des gens qui sont là attablés et qui regardent passer tous les autres. Donc c'est facile de critiquer tous les autres. Mais quand tu es en train de courir, tu es en action, quelqu'un vient te dire « Oh, tu as vu l'église là-bas ?» Ben tu dis « J'ai pas le temps. » Tu as vu le serviteur de Dieu là ? J'ai pas le temps, je suis en train de courir, je suis en mouvement. Celui qui n'est pas en mouvement, il a le temps de critiquer tout le monde. Amen. Celui qui est là, allongé dans l'herbe, il voit tomber un serviteur de Dieu, il dit « Regarde, il est tombé le gars. » Mais il est tombé parce qu'il est monté. Toi, tu risques pas de tomber, tu es allongé déjà. Le gars, il a pris des risques. Ben oui, il est tombé, c'est vrai, il n'aurait pas dû tomber, mais peut-être il peut se regarder dans la glace et dire, j'ai eu le courage de monter. Amen. Nous sommes appelés à développer une résistance en considérant Christ, nous dit Paul. Je vais terminer par là. Hébreux 12:3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si quelqu'un a connu l'opposition de la part des pécheurs, c'est bien Jésus. Il ne s'est pas lassé l'âme découragée. Et il était dit dans Ésaïe 42:4, il ne se découragera point, il ne se relâchera point. Mais ça sous-entend qu'il a été tenté par ces choses. Il a été agressé par ces choses. Hébreux 12:2, ayant les regards sur Jésus, nous sommes appelés à avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi dans notre marche et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Je trouve ça merveilleux. La foi active de Jésus, au lieu de se laisser mépriser par les démons, au lieu de se laisser mépriser par l'ignominie, c'est lui qui a méprisé l'ignominie. C'est lui qui a méprisé le découragement. C'est lui qui a regardé toutes ces choses de haut. Ne vous laissez pas regarder de haut par toutes ces choses qui veulent vous agresser. Ne vous laissez pas regarder de haut par les démons. C'est à vous de les regarder de haut. Alléluia. C'est pas cette dépression qui va m'atteindre. C'est pas cette pauvreté qui va me détruire. C'est pas cette critique qui va me rabaisser au rang des critiqueurs pour que je critique à mon tour parce que j'ai une certaine noblesse. Et la noblesse, c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir au sein de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On est trop noble pour se laisser aller à des choses trop médiocres, à des discussions trop médiocres, à des critiques trop médiocres. Alléluia. On doit rester au niveau où Dieu nous a placés. Amen. Parce que quand on perd de vue qui on est, on se comporte comme qui on n'est pas.
Donc il ne faut pas perdre de vue qui on est. Il n'y a pas de pauvre type qui a été recréé en Jésus-Christ, ça n'existe pas. Il a recréé que des merveilleuses créatures. Amen. Gardons notre statut de merveilleuse créature. Est-ce qu'on peut élever nos mains quelques instants? Alléluia. L'apôtre Paul, il dit qu'on peut parler à soi-même et à Dieu. C'est ce qu'on va faire pendant quelques instants. Parler à soi-même et à Dieu. Alléluia. Oh. Seigneur. Alléluia. Oh, Aramaya Kavara. Parlez à vous-même et à Dieu.